L'heure des informations avec vous, Camille Magnard.
Bonsoir, bonsoir à tous. La consternation à Nantes où trois jours après la mort d'un jeune homme tué par un policier, ce dernier reconnaît avoir menti en invoquant la légitime défense. Il affirme en garde à vue avoir tiré par accident. La mort d'Aboubakar, 22 ans, avait suscité la colère des quartiers nantais et trois nuits d'échauffourée. Une victoire qui légitime tout un combat pour l'aide aux migrants. L'agriculteur militant Cédric Herroux, conforté par le Conseil constitutionnel qui reconnaît la primauté du principe de fraternité sur le délit de solidarité. Un émir à l'Élysée, c'est celui du Qatar, reçu à déjeuner par Emmanuel Macron, qui soigne sa très bonne relation avec l'Émirat mais refuse d'arbitrer la crise diplomatique entre Qataris et Saoudiens. Également dans ce journal, la Chine qui riposte à la guerre commerciale provoquée par l'America First de Donald Trump. Et l'ouverture ce soir du Festival d'Avignon, Joël Gaillot nous détaillera le programme. Il a tué quelqu'un, il a menti. Des mots particulièrement accusateurs contre ce CRS qui mardi soir abattait un jeune homme de 22 ans à Nantes. Des mots pourtant prononcés par son avocat. Placé en garde à vue hier, le policier est donc revenu sur sa version des faits. Il n'invoque plus la légitime défense mais parle d'un tir accidentel pour justifier la mort d'Aboubakar, Mathilde Delemer.
Le brigadier chef était depuis hier en garde à vue, entendu par les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale, la police des polices. Et au cours de son audition, le fonctionnaire, qui dépend de la compagnie de CRS de Bergerac en Dordogne, a reconnu avoir menti, avoir, je cite, « fait une déclaration sur les faits qui n'étaient pas conformes à la vérité », ce sont les mots de son avocat. Il n'aurait donc pas cherché en légitime défense à neutraliser l'individu dans sa fuite en tirant volontairement sur lui, mais il aurait tiré de façon accidentelle. Le coup serait parti alors que le jeune homme était au volant du véhicule. Le gradé doit être déféré dans l'après-midi devant le parquet en vue d'une vraisemblable mise en examen. Rappelons que le jeune homme de 22 ans, mort à l'hôpital après avoir reçu donc la balle dans le cou, était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour notamment association de malfaiteurs. Son décès a provoqué depuis mardi, chaque nuit, des violences dans plusieurs quartiers de Nantes, bâtiments publics et voitures incendiées.
Mathilde Lemaire, et ce n'est pas ce revirement, cet aveu de mensonge du policier incriminé qui devrait calmer la colère des quartiers nantais. L'avocat du CRS, maître Laurent Franck Liénard, espère toutefois, lui, que son client sera libéré à l'issue de sa présentation au juge.
Il a tué quelqu'un, il a menti, il va être poursuivi, c'est sa carrière qui s'écroule, enfin tout s'effondre. Mais je vous confirme qu'il a déclaré que le tir était de nature accidentelle. Et pas de légitime défense au moment du tir, puisque le tir est involontaire. Il va être déféré, il va être mis en examen, sous une qualification qu'il appartient au juge de retenir. Puis voilà, et puis après il va suivre une procédure judiciaire qui va durer 5 ans. Parce qu'un dossier comme ça dure 5 ans, par expérience. J'espère qu'il ne sera pas écroué, on va se battre pour qu'il ne le soit pas. Maintenant, tout dépendra du juge devant lequel on va tomber, et tout dépendra des réquisitions du parquet.
Maître Liénard, chez nos confrères de France Bleu, Loire-Océan. Violence policière est toujours à Nantes, le tribunal administratif aggrave en appel la responsabilité de l'État dans la blessure au flashball qui avait privé un lycéen de son œil droit. C'était en marge d'une manifestation contre l'autonomie des universités en 2007. L'État est donc jugé responsable du drame à 90%. En première instance, les juges avaient estimé cette responsabilité à 50%. C'est cette fois l'aboutissement de tout un combat militant. L'agriculteur de la vallée de la Roya, Cédric Herroux, salue une immense victoire après que le Conseil constitutionnel lui a donné gain de cause. Les sages, ce matin, censuraient plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. En clair, cette décision fait primer le principe de fraternité sur la répression de ces citoyens français qui viennent en aide aux migrants. L'avocat de Cédric Herroux, c'est Patrick Spinozzi, fier d'avoir mené ce combat pour faire évoluer l'esprit de la loi fondamentale.
C'est la première fois que est posé aussi clairement le fait que aider une personne en situation irrégulière de façon désintéressée n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque poursuite pénale. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a fait une différence entre l'assistance au séjour, l'assistance à la circulation à partir du moment où l'étranger est sur le sol français, et l'assistance à l'entrée, c'est-à-dire l'aide au franchissement de la frontière qui, pour l'instant, semble exclue des exceptions humanitaires qui vient d'être posée par le Conseil constitutionnel.
Il est peut-être important de préciser à ce stade que, justement, cela exclut les passeurs et les responsables des filières clandestines.
Tout à fait. C'est bien la distinction que nous proposions. Évidemment, à partir du moment où il y a une contrepartie, à partir du moment où l'aide est financée, eh bien, il faut une sanction qui soit une sanction extraordinairement sévère, car il est inacceptable que puissent se développer des réseaux de passeurs ou des filières clandestines. En revanche, il faut distinguer à partir du moment où l'aide apportée est purement humanitaire, purement désintéressée, purement fraternelle. Et à partir de ce moment-là, il est impossible que la loi française permette des poursuites à l'encontre de ces personnes qui ont simplement tendu la main de façon totalement désintéressée, sans aucune contrepartie financière à l'égard d'étrangers qui sont dans des situations souvent catastrophiques sur le sol français.
Au palais de justice de Paris, à présent, on juge depuis mercredi 4 hommes pour association de malfaiteurs. Tous les 4 avaient, à la fin des années 2000, contribué au site djihadiste en ligne Ansar al-Haq. Parmi eux se trouve Farouk Benares, présenté comme une figure de l'islamisme radical. Et cet après-midi, le parquet a requis des peines allant jusqu'à 6 ans ferme pour tous les prévenus, Florence Turme.
C'est une question juridique et technique, mais une question essentielle. Le djihad médiatique constitue-t-il une association de malfaiteurs? Dans ce procès, les enjeux sont énormes, commence le procureur. Si les faits relèvent de l'apologie du terrorisme, alors ils sont prescrits, car à cette époque, ils relèvent du simple délit de presse. Mais pour lui, aucun doute, il s'agit bien d'association de malfaiteurs et il va s'attacher à le démontrer. D'abord, il y a une entente, explique le procureur. C'est le monde des radicalisés de la fin des années 2000 qui se dessine. Il s'attarde sur l'essence même du site, une propagande massive, perpétuelle, organisée, des tentatives d'endoctrinement et il n'y a pas de départ sans endoctrinement. Ansar al-Haq, poursuit-il, c'est la déclinaison d'une doctrine d'Al-Qaïda, du djihad global, du djihad médiatique. Il cite le logiciel de cryptage Mujahideen Secret, la mise en ligne des coordonnées des talibans, avant de s'arrêter sur le parcours des prévenus, leur rencontre en Égypte, typique pour lui des plus grands radicalisés de l'époque. Des hommes qui n'ont pris aucun recul, aucune distance, c'est encore plus vrai selon lui pour Farouk Benares, son comportement relève, dit-il, d'une véritable tartufferie. Je ne veux pas que reste sur le territoire un individu dont la dangerosité est aussi évidente, conclut le ministère public. 6 ans d'emprisonnement requis à son encontre avec une peine de sûreté des 2/3, une interdiction définitive du territoire français et un mandat de dépôt à l'audience, autrement dit son incarcération immédiate à l'heure du jugement, alors qu'il comparaît libre sous contrôle judiciaire.
Florence Sturm au palais de justice de Paris où le jugement a été mis en délibéré. Faudra-t-il bientôt parler des patriotes au singulier? Le parti dissident du Front National fondé par Florian Philippot enregistre une nouvelle défection et c'est celle de l'eurodéputée Sophie Montel. Elle explique ne pas avoir quitté le FN dysfonctionnel pour cautionner les mêmes dérives dans sa nouvelle formation politique. Sophie Montel raille également la divine solitude dans laquelle s'est enfermé Florian Philippot, selon elle. Toujours à l'extrême droite de notre échiquier politique, la mise en examen de Bruno Gollnisch sous la qualification d'abus de confiance, c'est l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires FN au Parlement européen. Celui impliquant Bruno Gollnisch aurait perturbé entre 2000 et 2015. 18h08, c'est un partenaire fiable, un ami que recevait à déjeuner Emmanuel Macron à l'Élysée ce midi. L'émir Al-Thani du Qatar, entouré de nombreux signes d'amitié, donc sur la question en particulier de la lutte contre le terrorisme. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Avec tout de même en toile de fond de cette rencontre, la crise diplomatique qui fait rage depuis un an maintenant entre le Qatar et ses voisins du Golfe, l'Arabie Saoudite en tête, de quoi parasiter un peu la très bonne relation mise en avant par Paris et Doha.
Si Emmanuel Macron a une fois de plus appelé à la réconciliation dans la crise entre les pays du Golfe, s'il veut continuer à parler à toutes les parties, s'il soutient la médiation du COET menée sans résultat à ce jour, le conflit qui oppose notamment l'Arabie Saoudite au Qatar reste entier. Le Qatar fait l'objet depuis le 5 juin 2017 d'un blocus de la part de ses voisins, ce qui ne l'empêche pas de développer ses relations à l'international comme avant la crise. Pas d'accord économique annoncé pour autant cet après-midi lors de la rencontre entre l'émir du Qatar et le président français, mais Doha, qualifié, vous le disiez, de partenaire fiable par Paris, a des projets d'investissement en France dans des secteurs comme la technologie et l'agroalimentaire. Le chef de l'État du Qatar s'était rendu par ailleurs hier à Mont-de-Marsan, là où sont formés des pilotes qataris de Rafale. L'émirat avait officialisé en décembre dernier, lors d'une visite d'Emmanuel Macron, l'achat de 12 appareils supplémentaires. Le Qatar, détenteur d'un fonds souverain de 320 milliards de dollars, reste un client courtisé, au même titre que l'Arabie Saoudite d'ailleurs. Et aujourd'hui, ces contrats avérés ou potentiels seraient scrutés par son puissant voisin. Le journal Le Monde a récemment évoqué des pressions faites par Riyad auprès de capitales étrangères pour dissuader Doha d'acquérir auprès de Moscou un système de défense anti-aérienne. La question a été posée au cheikh Tamim Ben Ahmad Attani cet après-midi. Voulait-il calmer le jeu ? Il a répondu qu'il n'y a pas d'accord de ce type jusqu'à maintenant.
Nabila Hamel, merci à vous. La Chine, elle, en appelle à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour calmer les ardeurs commerciales de Donald Trump. Pékin réagit ainsi à la guerre commerciale lancée contre les importations chinoises, lancée donc la nuit dernière par l'Amérique. 34 milliards de dollars de produits made in China sont concernés pour l'instant, mais le président américain dit vouloir surtaxer quasiment tous les produits en provenance de Chine, où l'on a déjà amorcé la riposte, Dominique André.
La Chine accuse l'administration Trump d'avoir lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique à ce jour. Le ministère chinois du commerce répond donc avec une première salve en imposant à son tour des tarifs douaniers sur 34 milliards de dollars, soit 29 milliards d'euros d'importations américaines. Coup pour coup, à la même heure et sur le même montant, telle est la riposte de la Chine qui ne cédera pas à la menace ni au chantage, a dit le porte-parole du ministère du Commerce. Les produits américains visés sont entre autres le soja, le porc et le coton. La Chine va porter plainte aussi devant l'OMC. Du côté des douanes chinoises, c'est la confusion aujourd'hui. Les opérations de dédouanement des marchandises américaines sont retardées dans plusieurs ports en Chine dans l'attente d'instructions claires sur la perception des nouveaux droits d'importation. Le Global Times, quotidien officiel nationaliste chinois, s'interroge lui sur les raisons pour lesquelles les États-Unis s'engagent dans cette guerre. Pour faire baisser le déficit commercial ou pour contenir le progrès technologique de la Chine, demande l'éditorialiste. Il est vrai que le plan Made in China 2025 vise à faire de la Chine le leader mondial en technologie et en intelligence artificielle.
Dominique André à Pékin. J'ajoute que la Russie a elle aussi fait son entrée dans cette guerre commerciale. Elle relève à son tour les barrières douanières à 25 voire 40% pour certains produits importés des États-Unis, fibres optiques, équipements routiers, produits pétroliers et gaziers en particulier. En Syrie, l'ébauche d'un accord de cessez-le-feu entre les rebelles acculés dans la région de Deraa et les émissaires russes. L'armée syrienne libre affirme avoir accepté de rendre les armes et de quitter la zone en proie à des combats incessants depuis des semaines pour se replier dans d'autres secteurs toujours en lutte contre le régime de Damas. Une force de protection russe prendrait le contrôle de la zone de Deraa pour permettre le retour des plus de 320 000 civils qui avaient fui les combats. L'armée syrienne loyaliste a repris aujourd'hui le contrôle du poste frontière avec la Jordanie au sud de cette région de Deraa, considérée comme le berceau de la rébellion. Lui a suivi son procès depuis Londres, l'ex-premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, condamné par contumace à 10 ans de prison dans son pays et 9 millions d'euros d'amende, peine prononcée par un tribunal anti-corruption et qui concerne l'achat non déclaré au fisc de plusieurs appartements luxueux dans la capitale britannique, où Sharif s'est donc exilé pour échapper à ses poursuites. Retour en France à présent pour repartir immédiatement à Avignon, où le festival dresse ses tréteaux à partir de ce soir et jusqu'au 24 juillet, du théâtre de la cour d'honneur du Palais des Papes jusqu'au moindre recoin de la vieille ville, avec une programmation in Joël Gaillot qui met les questions de genre et un genre théâtral en particulier en vedette, la tragédie.
Le festival d'Avignon va s'ouvrir avec la représentation dans la cour d'honneur du Palais des Papes d'une des pires tragédies qui soit. Quand je dis pire, Camille, je ne mens pas, puisque dans Thieste de Sénèque, que met en scène Thomas Joly, nous assisterons à un infanticide lui-même doublé de cannibalisme. Cette ouverture donne-t-elle le la de la suite du programme ? En partie, car le festival est un grand livre cohérent dont chaque chapitre, c'est-à-dire chaque spectacle, a été choisi par le directeur Olivier Py. Il va donc y avoir cette année des tragédies, Thieste, Iphigénie, Antigone, des épopées sur fond de terrorisme, comme le spectacle de Julien Gosselin d'après l'œuvre de l'écrivain Don de Lillo, des comédies intimes qui se terminent mal, ce sera le cas avec Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, porté par les jeunes élèves de l'école de Lille. Il y aura aussi des immersions dans les tensions sociales, guerrières et politiques de l'Iran, du Liban ou de l'Égypte, dont des artistes sont invités, et encore un coup de projecteur très appuyé sur la question du genre, question qui sera traitée par David Bobet et ses troupes lors d'un feuilleton quotidien proposé à midi en plein air. On verra encore plus de 1500 spectacles dans le festival OFF, dont beaucoup seront oubliables, mais pas tous. Et enfin, on assistera le 13 juillet à 20h puis 22h dans la cour du musée Calvé au lieu des fictions de France Culture à l'apparition de la star Isabelle Adjani qui lira avec Lambert Wilson, les lettres de Maria Cazares et Albert Camus. Bref, Avignon, pour résumer, ce devrait être cet été un cru joyeux, intrigant, énervant, énervé, politique, passionnel, où s'entrechoqueront le plaisir, l'exigence, les idées, le glamour, le soleil, les nuits trop courtes et les éclats de voix, ce qui est, je crois Camille, de bon augure.
C'est ça, beau programme à Avignon. Merci Joël Gaillot et votre chronique du festival à retrouver dans le journal de 18h toute la semaine prochaine. Ciel dégagé pour la soirée à l'exception des frontières de l'Est, de l'Alsace aux Deux-Savoie. Demain matin, le ciel va briller partout avec un risque d'orage tout de même pour l'extrême sud-ouest, région de Biarritz, et des températures au lever du jour comprises entre 19 degrés sur Cherbourg et 29 à Marseille. Merci à Jean-François Braun qui réalisait ce journal à 22h. Prochain point complet sur l'actualité avec Mathieu Laurent.